Le tempo de l'histoire, un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.
Nous allons remonter le temps avec les musiques de chaque époque. La musique ou les chansons rythment le temps de l'histoire. Ou c'est peut-être l'histoire qui impose la cadence. La musique est le reflet d'une époque. C'est aussi une pause éternelle. Les moments historiques sont marqués par des musiques sans doute inspirées par les événements de chaque période. C'est le tempo de l'histoire. Le Conseil d'en haut décide que la procédure de la Chambre de justice contre Nicolas Fouquet doit être poursuivie à l'exclusion d'aucune autre juridiction. L'arrêt interdit à Fouquet de se pourvoir devant le Parlement et aux conseillers de recevoir sa requête. En juillet, c'est la répression de la révolte des Lustucrus qui a éclaté à la suite de la suppression des franchises dans le Boulonnais. En septembre, c'est la confrontation de Fouquet à 29 témoins sur les 101 qui ont été cités par Talon. En juillet, la mère, la femme et la fille de Fouquet se présentent au palais de justice et remettent à Lamoignon une requête en récusation de la Chambre de justice. La famille de Fouquet demande au Parlement d'ordonner la restitution des papiers saisis. En juillet, à Paris, le prix du setier de froment de la meilleure qualité a dépassé 40 livres. Dans les provinces les plus atteintes par la disette, les cours, durant la soudure du printemps et du début de l'été, ont atteint des chiffres records. C'est la famine de l'avènement. Jean-Baptiste Lully, parfois De Lully, en italien Giovanni Battista Lully, né le 28 novembre 1632 à Florence et mort le 22 mars 1687 à Paris, dans la paroisse de la Madeleine, est un compositeur et violoniste français d'origine italienne de la période baroque, actif en France sous le règne de Louis XIV. Naturalisé français en 1661, il est nommé, la même année, surintendant de la musique du roi et l'année suivante, maître de musique de la famille royale. Thank you. La marche pour la cérémonie des Turcs est issue d'une comédie-ballet « Le bourgeois gentilhomme » écrite par Molière et Jean-Baptiste Lully en 1670. Le bourgeois gentilhomme est la 11e comédie-ballet de Molière et Lully. La comédie-ballet est une combinaison de comédie parlée, de chant, de danse. Cette forme a été voulue par le roi Louis XIV afin de coudre ensemble théâtre, musique et danse sans rompre le fil de la pièce. Il s'agit en fait d'une préfiguration de l'opéra galant que Rameau mettra en place quelques décennies plus tard. La comédie-ballet est un véritable réservoir des procédés que Lully utilisera par la suite dans la tragédie lyrique. La marche pour la cérémonie des Turcs est une musique de divertissement. Elle est entièrement instrumentale et est destinée à être dansée. C'est donc une musique de ballet. Cette musique est une volonté de Louis XIV. Alors que le roi recevait l'ambassadeur du Grand Turc, celui-ci aurait prêté peu d'attention et fait quelques remarques désobligeantes. Le roi, pour ne pas perdre la face, décida qu'une pièce de théâtre serait composée en caricature. C'est alors que naquit le célèbre ballet turc Ridicule. La révolte des Lustucrus a eu lieu dans le Boulonnais, une région qui avait bénéficié d'exemptions fiscales depuis le rattachement de la Picardie à la France. En 1661, Louis XIV a établi un nouvel impôt annuel de 30 000 livres, la subvention du Boulonnais et de quartiers divers, qui a été mal perçue par les habitants, surtout en temps de paix. L'origine exacte du nom de la révolte, qui n'est pas contemporain aux événements, est inconnue. Néanmoins, il est probable que cela fasse référence au Lustucru, personnage de l'imagerie populaire, très en vogue sous Louis XIII et Louis XIV, forgeron et médecin à la fois, censé reformer à l'aide de ses outils la tête des femmes pour les guérir de prétendus maux, ce en raison de déviance de leur caractère. Le littré indique aussi terme populaire, pauvre diable ou homme ridicule. Il est possible pourtant que Lustucru ne soit pas autre chose que Lustucru, phrase traditionnelle du niais de théâtre qui dit à sa nouvelle épouse « Lustucru ». Marc-Antoine Charpentier, né en Île-de-France en 1643 et mort à Paris le 24 février 1704, est un compositeur et chanteur baroque français. Il est connu pour ses compositions de musique sacrée, en particulier ses motets et ses messes. Charpentier a travaillé pour le roi Louis XIV et pour les jésuites à Paris, pour lesquels il a composé la majeure partie de sa musique sacrée. Par l'ampleur et la qualité de son œuvre, sacrée et profane, Charpentier figure parmi les plus importants compositeurs de la période baroque en France. Son style a été influencé par la musique italienne. Charpentier a également composé de la musique instrumentale, des opéras et des ballets. Sa musique sacrée et théâtrale fit concurrence à celle de son contemporain Jean-Baptiste Lully.
Le tempo de l'histoire, un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.
Gracchus Babeuf, de son vrai nom François-Noël Babeuf, né le 23 novembre 1760 à Saint-Quentin et mort le 27 mai 1797 à Vendôme, est un protagoniste de la Révolution française à l'origine d'une tentative d'orientation démocratique contre le régime du Directoire, la Conjuration des Égaux, dont l'échec aboutit à son exécution par la guillotine. Le courant de pensée correspondant à ses idées, le babouvisme, préfigure le communisme et l'anarchisme. Baptisé le 24 novembre 1760 dans la paroisse Saint-Nicaise, Saint-Quentin, François-Noël Babeuf est le fils de Claude Babeuf, employé dans les fermes du roi, et de Marie-Catherine Ancherel. Dès l'âge de 12 ans, il travaille comme terrassier au canal de Picardie. À 17 ans, il réussit à se faire engager comme apprenti chez un notaire, feudiste à Flixecourt. Babeuf devient alors un spécialiste du droit féodal. En 1781, âgé de 21 ans, il commence à exercer pour son propre compte à Roye comme géomètre. Il y est également commissaire à Terrier. En mars 1789, Babeuf participe à la rédaction du cahier de doléances des habitants de Roye. À la suite de l'échec de son cadastre perpétuel et surtout au début de la Révolution française, il devient journaliste, vivant entre Paris et Roye. Il est ainsi correspondant du Courrier de l'Europe, édité à Londres, à partir de septembre 1789. Il se bat contre les impôts indirects, organise pétitions et réunions. Son activité et son audience lui valent d'être accusé d'incitation à la rébellion. Il est arrêté le 19 mai 1790 et emprisonné. Il est libéré en juillet grâce à la pression du révolutionnaire Jean-Paul Marat. Il lance son propre journal en octobre 1790. Le correspondant Picard, journal révolutionnaire fort avancé dans lequel il s'insurge contre le suffrage censitaire mis en place pour les élections de 1791. En février, Mozart compose la sonate pour piano numéro 17 en si bémol majeur. Rendu à la liberté le 26 Vendémiaire en 4, 18 octobre 1795, par la loi d'amnistie qui termine la session de la Convention nationale, il relance rapidement la publication du Tribun du Peuple. Le gouvernement a une politique de répression de plus en plus forte, avec la fermeture du club du Panthéon, où sont présents nombre d'amis et de partisans de Babeuf, et tente d'arrêter ce dernier en janvier 1796. Étant parvenu à s'enfuir, il entre dans la clandestinité. Le but est de continuer la révolution, d'appliquer la constitution de l'an 1, 1793, et d'aboutir à la collectivisation des terres et des moyens de production pour obtenir la parfaite égalité et le bonheur commun. Bientôt, des pamphlets circulent. Ils annoncent l'abolition de la monnaie, le logement des pauvres chez les riches et les distributions gratuites de vivres. Le complot est stoppé le 21 Floréal en 4, 10 mai 1796. Grâce aux informations d'un indicateur, Georges Grisel, la police arrête Babeuf ainsi que ses complices. Babeuf, à qui l'on reproche l'initiative du complot, et d'Arte, qui s'est enfermé lors des débats dans le mutisme le plus total et à qui l'on reproche la rédaction de l'ordre d'exécution des directeurs, sont condamnés à mort. En attendant sa condamnation à mort, Babeuf se frappa dans le prétoire même de plusieurs coups de stylet et fut porté mourant le lendemain à l'échafaud.
Le tempo de l'histoire, un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.
Mars 1979. La sonde américaine Voyager 1 approche Jupiter à son maximum. Le même jour, Stephen P. Sinnott découvre TB. Après de très longues et très âpres négociations, une communication du Conseil européen annonce « Les conditions sont désormais réunies pour que soit mis en œuvre le mécanisme de change du système monétaire européen ». C'est la naissance du système monétaire européen, le fameux SME, après 13 mois de dures négociations.
Système monétaire européen, unité de compte, qu'est-ce qui se cache derrière ces noms qui ne disent pas grand-chose aux non-initiés ? En fait, un ensemble de mécanismes relativement simples. Les 9 pays de la communauté européenne effectuent entre eux plus de 50% de leurs échanges commerciaux, soit une part très importante de ces échanges. Pour qu'ils fonctionnent correctement, il faut que la valeur des monnaies les unes par rapport aux autres ne varie pas trop. Depuis le 12 mars 1979, le SME, le système monétaire européen, devrait être le moyen d'éviter ces trop grandes fluctuations. En fait, schématiquement, il s'agit d'un immense coffre-fort contenant 120 milliards de francs dont on se sert pour renflouer les monnaies qui faiblissent trop. Ce coffre-fort est alimenté par tous les pays membres du SME, c'est-à-dire les 9 de la communauté, moins le Royaume-Uni. Le SME dispose également d'un outil précieux, l'unité de compte européenne, l'écu. Il s'agit en fait d'une monnaie fictive qui sert de référence pour connaître avec une très grande précision les variations de valeur des monnaies du système. Si une monnaie varie de plus de 2,25% par rapport à une autre, la banque centrale du pays concerné doit intervenir pour renflouer sa monnaie. Pour cela, elle a la possibilité de disposer de crédits du Fonds européen de coopération, le coffre-fort du SME. Les avantages concrets que le système apporte aux Européens, industriels et commerçants, libérés des risques de fluctuation d'échanges, peuvent mieux prévoir leurs activités. Résultat, plus d'investissements parce que plus de confiance et donc des créations d'emplois. Mais tout n'est pas aussi facile. Le SME a des défauts, le fonds de coopération est encore trop faible et la part qui paye les Allemands est trop élevée. Cette part représente en effet 20% des réserves des pays en or et en dollars. Enfin, il apparaît que les taux de croissance économique des pays membres sont trop différents pour les maintenir au sein d'un même groupe monétaire.
À Paris, c'est la marge des sidérurgistes qui tourne à l'émeute. En économie, on assiste à une augmentation de 20% des prix du pétrole. C'est le début du second choc pétrolier. L'Égypte reconnaît l'État israélien qui évacue le Sinaï. Le 26 et 27 mars 1979, c'est la conférence de l'OPEP. Le prix du pétrole augmente de 20%. C'est le début du deuxième choc pétrolier. Le 26 mars 1979, la centrale nucléaire de Three Mile Island connaît le plus grave accident nucléaire aux États-Unis à cause d'une fuite radioactive. En France, Louis Powells popularise le terme de nouvelle droite. The Logical Song est une chanson du groupe rock britannique Supertramp. Elle est sortie en tant que single principal de l'album Breakfast in America en mars 1979. The Logical Song rencontre un énorme succès commercial atteignant la 7e place au Royaume-Uni et la 6e place du Billboard Hot 100 aux États-Unis. En France, elle occupe la 2e place du hit-parade. Paul McCartney l'a nommée comme étant sa chanson préférée de l'année 1979. The Logical Song est écrite principalement par Roger Hodgson, les paroles étant basées sur son expérience de l'internat où il a été envoyé pendant 10 ans. Pour Hodgson, il s'agit d'une chanson très personnelle, travaillée pendant les essais de balance et dont il avait complété les paroles et l'arrangement 6 mois avant de la proposer au groupe pour l'album. En 1980, Hodgson est honoré du prix Ivor Novello de la British Academy of Composers and Songwriters pour cette chanson, nommée meilleure chanson à la fois musicalement et lyriquement. À ce jour, The Logical Song est également distingué par ses paroles qui sont les plus citées à l'école. Le thème de la chanson est assez sombre, critiquant la société que les hommes ont créée et qui semble pervertir les jeunes enfants, les obligeant à devenir logiques, responsables, avec un esprit pratique, sans aucune personnalité, en un mot, des légumes. Le narrateur de cette chanson, âgé, regrette le temps de son enfance où il pouvait être libre et heureux, où tout était magique. Il est intéressant de s'attarder plus en détail sur les paroles. En effet, le narrateur, semblant être en plein délire, alerte ses prochains, les mettant en garde. Il leur demande de faire attention sous peine de se faire traiter de gauchistes, de fanatiques, de criminels. L'album Breakfast in America, d'où est tirée cette chanson, tourne toujours autour de thèmes comme le rêve américain. En France, The Logical Song s'est vendu à 677 000 exemplaires et sera certifié disque d'or pour 500 000 exemplaires vendus. Cette émission est maintenant terminée. À bientôt pour d'autres périodes historiques rythmées par le tempo de l'histoire.
Le tempo de l'histoire, un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.